Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter ou à le commenter.
Et Dieu dans tout ça ?
Sur la première.
C'est à la lettre W que nous ouvrons notre grand dictionnaire cette semaine. Il est question de la philosophe Simone Veil et avec nous, Martin Legros du Philosophie Magazine. Bonjour Martin.
Bonjour Pascal.
La courte vie de Simone Veil qui a laissé des traces dans le champ de la pensée du siècle dernier, Martin.
Oui, Pascal, la philosophe Simone Veil, qu'il ne faut pas confondre avec la politicienne du même nom, a eu une vie brève, incandescente, au service à la fois de la justice sociale et de ses aspirations mystiques, qu'elle considérait d'ailleurs comme étroitement liées. Née en 1909 à Paris dans une famille bourgeoise d'origine juive, morte à 34 ans, vous l'avez dit, d'épuisement physique et moral, dans un sanatorium à Ashford en Angleterre, où elle avait rejoint la résistance et le général de Gaulle. Agrégée de philosophie, convertie au catholicisme et férue de Homère et des Grecs, Veil s'est jetée à corps perdu dans le monde, celui de la lutte contre le fascisme en Espagne, des usines qu'elle avait rejointes pour partager la vie et pas seulement la cause des ouvriers. Elle a maintenu dans cet engagement total une forme de retrait ascétique, spirituel, mystique même, qui fait la singularité unique de cette philosophe qui avait quelque chose d'une sainte. Car elle considérait qu'il était indécent de vivre dans le confort et la sécurité quand la majorité était dans le besoin et la précarité. Simone de Beauvoir, qui l'a côtoyée, raconte ainsi que lorsqu'elle vivait dans une auberge de rouliers, elle déposait chaque premier du mois le montant de son traitement de prof sur la table pour que chacun se serve. Et quand Beauvoir soutenait devant elle de manière très existentialiste que le vrai problème des hommes est de trouver un sens à leur existence, Veil lui répliquait « On voit bien que vous n'avez jamais eu faim ». Elle se fait engager comme ouvrière de presse chez Alstom, comme fraiseuse chez Renault, pour éprouver de l'intérieur l'épuisement du corps, les gestes indéfiniment répétés, l'aliénation de la pensée. Dans son journal d'usine, elle en tire une exigence magnifique concernant le travail, une exigence qui vaut aujourd'hui aussi bien pour le burn-out que pour l'épuisement physique. Pour tout travailleur, dit-elle, femme de ménage, manutentionnaire ou informaticien devant son écran, le travail ne garde son sens que si le produit de notre activité peut être et demeurer, dit-elle, un objet de contemplation. Dans le même esprit, elle s'attache à lister, à côté des droits de chacun, la liste des devoirs et des besoins de l'âme, comme elle dit, comme la possibilité de prendre des initiatives ou le sentiment de se sentir utile. Alors que ses contemporains se demandent s'il faut rejoindre le Parti communiste, elle milite pour la suppression des partis politiques dont l'existence empêche chacun d'exercer lui-même sa responsabilité et d'agir par lui-même dans le risque.
La responsabilité et le risque étaient justement deux notions importantes pour elle. Simone Veil qui attachait aussi beaucoup d'importance à l'enracinement, c'est-à-dire, Martin.
Oui, l'enracinement, c'est le titre de son dernier texte qui est son testament philosophique. Elle y dénonce le monde capitaliste industrialisé qui broie les individus et les déracine en les aliénant. Et elle invite les exilés que nous sommes tous dans ce monde à nous réancrer, à s'enraciner dans le milieu naturel, qu'il soit culturel, familial ou professionnel. Alors que ses contemporains ont les yeux rivés sur l'arrachement révolutionnaire au monde d'hier, à la projection dans l'avenir, elle ose affirmer « Il faut avoir en vue dans toute innovation politique, juridique, technique susceptible de répercussions sociales, un arrangement permettant aux êtres humains de reprendre des racines. Il ne s'agit toutefois pas d'un appel réactionnaire aux racines. Ce qu'elle cherche à préserver, c'est la possibilité d'un ancrage dans un monde devenu liquide, où le changement et le mouvement est devenu permanent. À quoi sert cet ancrage ? À rendre possible l'activité que Veil considère sans doute la plus fondamentale, l'attention. Dans un magnifique texte intitulé « L'attente de Dieu », elle en parle comme d'un effort, le plus grand effort des hommes, mais un effort négatif, dit-elle. La pensée doit être comme un homme sur une montagne qui regarde devant lui, aperçoit en même temps sous lui, mais sans les regarder, beaucoup de forêts et de plaines. Et surtout, la pensée doit être vide, en attente, ne rien chercher, mais être prête à recevoir, dans sa vérité, nue, l'objet qui va y pénétrer. Les biens les plus précieux, conclut-elle, ne doivent pas être recherchés, mais attendus. C'est cette attente, cette disponibilité, cette pure ouverture au monde que Simone Veil nous invite à cultiver dans ce qu'elle appelle l'enracinement.
Merci Martin Legros pour ces explications et pour en savoir plus, rendez-vous dans le dernier Philosophie Magazine qui met en titre cette question « Comment cultiver la bonne humeur ?» Merci Et bonne journée, Martin.
Bonne journée, Pascal.
Et Dieu dans tout ça, sur la première.
J'espère que vous avez aimé ce numéro des Dieux dans tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux. Ça permettra à plus d'oreilles encore de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.